So, first of all, today, tonight, I want to just acknowledge that I appreciated to hear some of you this afternoon after having a monologue for 3 days. It's good to have a dialogue for a change. And also worthwhile to, of course, hear what's going on behind these faces, which I see here.
Donc, pour commencer, je voudrais dire que j'ai apprécié d'avoir parlé avec quelques-uns d'entre vous cet après-midi, d'avoir eu un dialogue après avoir été en monologue pendant 3 jours. C'est aussi bien de savoir un peu ce qui se passe pour les participants.
Mm. And so very relevant topics were mentioned, themes people have had on their minds while they were actually practicing here. So it was very much practice-based.
Donc on a parlé de thèmes, de choses qui se manifestent pour les gens durant leur pratique. Donc on a vraiment parlé de pratique.
And of course, one of the themes is very often a recurring theme is what is the, not only what is the aim, but when will it end? When will the spiritual path end?
Et donc un des thèmes dont on a parlé, c'était non seulement quelle est la raison de la voie spirituelle, mais aussi est-ce qu'elle a une fin? Quand prend-elle fin?
And of course, there are, we have various euphemisms, various descriptions and words, terms which describe this the goal of Buddhist practice. We call it Nibbana, awakening. Enlightenment is also a term which I don't particularly favor, but used very often.
Donc il y a différents mots qui sont utilisés pour décrire ce but. Donc il y a le mot Nibbana, éveil, libération.
Or the via negativa, the term like unbinding, the end of suffering, things like that.
Ou bien des termes comme via negativa, la fin de la souffrance, je dirais libération.
And if you've ever read the Satipatthana Sutta, the discourse which the teachings we're using here, at the very end there's a very interesting statement made.
Et à la fin du Satipatthana Sutta, il y a quelque chose qui est dit qui est très intéressant.
And it says if you practice Satipatthana for 7 years, 7 months, 7 weeks, or 7 days, and have uninterrupted sati, then 2 things can be expected.
Donc, à la fin du sutta, il est dit que si on pratique le Satipatthana pendant 7 ans, 7 mois, 7 semaines ou 7 jours, avec un sati continue, on peut espérer 2 choses, deux choses.
So I was always wondering why it comes down like that from 7 years, 7 weeks, 7 months, 7 weeks to 7 days.
Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on présente comme ça de 7 ans jusqu'à 7 jours.
Maybe to practice 7 years with uninterrupted sati is a bit of a tall order for most of us.
Bon, pratiquer pendant 7 ans avec une attention ininterrompue, c'est demander beaucoup.
Even 7 days, hein? Looking at our minds, how they were the last, even just the last 3 days, how uninterrupted was your sati? in those 3 days.
Même pour 7 jours, c'est difficile. Regardez même juste les 3 derniers jours.
So it can be rather intimidating, isn't it, when you read these things? But to come back, these two things to be expected. The first thing, of course, is full realization in the here and now. So that is Nibbana, this is the realization of arahantship, full awakening, to be an arahant.
Et donc, ça fait un peu peur, mais pour en venir à ce qu'on peut espérer, la première chose est on peut espérer l'éveil, donc devenir arahant, la libération totale.
Or maybe if you have little glitches here and there in your sati, then you will at least achieve what is called a non-returner in the translation, anagami in the Pali word.
Ou bien s'il y a eu des interruptions dans le flot de l'attention, la deuxième chose qu'on peut espérer, c'est l'état qui s'appelle anagami, celui qui ne revient pas.
So it's also sometimes referred to as the divine abodes.
Donc c'est aussi, on appelle ça les demeures sublimes.
And I sometimes call it flippantly the departure lounge for the arahants, the future arahants.
et moi je l'appelle aussi la salle de départ pour les futurs arahants.
Because they still have some work to do, a little bit work to do.
Parce qu'ils ont encore du travail à faire.
But they will not come back to the lower realms, they will never be reborn in the human realm, or let alone the animal realm or hell realms. They will just move on to the next stage, which is full awakening.
Donc, on dit pour les anagami qu'ils ne vont jamais renaître dans les mondes moins élevés, donc le monde humain, le monde des animaux, certainement pas dans les enfers. Ils vont renaître dans une demeure sublime et puis atteindre l'éveil.
This sounds quite removed from our experience, doesn't it, when we hear these things?
Et ça semble bien loin de notre propre expérience quand on entend ça.
Or do we have an anagami here, waiting to just take off, to become fuller?
Peut-être il y a un anagami parmi
nous. Please raise your hand. And we invite you to give the Dhamma talk tomorrow night.
Vous pouvez donner le discours demain si vous êtes anagami.
But then of course there is, of course what is important is that we find a way to assess for ourselves if actually something is happening, isn't it? If we are on track, so to speak.
Bon, ce qui est important, c'est qu'on trouve un moyen pour nous-mêmes de savoir où on en est, de juger où on en est.
And I find other pointers in the scriptures a lot more helpful than, you know, these very high ideals which I just mentioned.
Et bon, je crois qu'il y a d'autres indications dans les textes qui sont peut-être un peu plus faciles à suivre que ces idéaux très très élevés.
So and when very often, of course, people are very tempted, even on a meditation retreat like this, to constantly look at the monitor. You know how far they've gone, how far they're still away from the imagined goal of the practice. Comparing themselves with this imagined, with this image in the mind they have of the goal.
Donc la tentation est vraiment souvent de se comparer, de toujours être en train de voir où on en est par rapport à un but, une imagination d'où on devrait être, et de se comparer à ces idéaux.
And in the Buddhist texts, we have accounts of what one could call two basic approaches, what one could call. One is the more the gradual path to awakening, and the other is more the sudden awakenings.
Dans les textes, on trouve les descriptions de deux approches qui sont une approche où l'éveil est soudain, où l'éveil arrive petit à petit.
And the Buddha gives actually an analogy in one discourse where he speaks about, he actually uses examples from the craftsmanship. He uses the example of a carpenter or a goldsmith. So just in a similar way as a carpenter who's using a planer every day, you know, the planer tool has a big handle on the top and move like this to plane the wood.
Et donc, il y a des analogies dans le texte, dans les textes, et le Bouddha utilise deux analogies en particulier, des artisans, un orfèvre et un travailleur du bois, et qui utilise une râpe, vous savez, pour planer. Son planer aussi, on pense au bois.
And so this carpenter wouldn't be able to say in regards to the handle, so much of the handle has been kind of worn away today, so much has been worn away yesterday, but it would take a much longer time to actually see that the handle he's been using for a stretch of time has actually changed over time.
Et donc l'artisan ne peut pas savoir combien le manche de son outil a été usé chaque jour qu'il l'a utilisé, mais au bout d'un certain temps, il voit bien que son manche est usé.
So in a similar way, when we're constantly looking at the monitor, what have I realized, what had I let go of, it kind of blocks the view from more the, I would say, the larger perspective.
Donc de même, quand on est constamment en train d'essayer de voir où on en est, de cette façon, ça bloque un peu la vue de la perspective plus grande, plus large.
But when we look back, maybe, and I wouldn't determine a certain time span, maybe a few months, maybe a year, maybe 2 years, and then we might be able to say, yes, this has been actually let go of. This used to torment me and haunt me so much, but it's just not there anymore. It has been released. It's gone.
Mais au bout d'un moment, quand on examine, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a certaines choses qui ne nous tourmentent plus. On a lâché. Elles ne sont plus là.
And so that's a much more realistic way of looking at oneself. It's much more humble, isn't it?
Donc c'est une façon beaucoup plus réaliste de se regarder. C'est beaucoup plus humble.
It goes a bit against our impatience. We want awakening now.
Ça contrecarre un peu notre impatience. On veut être éveillé maintenant.
Which has nothing to do with to be awake here and now. This is a different story.
Mais ça n'a rien à voir avec être éveillé ici maintenant. C'est autre chose.
So, and the other example I want to give you that as well, with the goldsmith, that's very, and we can relate to that very easily, a goldsmith who has a kind of very impure material there, just the stuff has been taken out of a riverbed or so, and he's kind of heating it up, working on it, and the impurities get removed, he has to heat it up again and again. More impurities are removed until eventually the pure gold is left, the pure substance which he actually wants is left.
Et donc l'autre analogie est celle de l'orfèvre qui travaille la pierre qui contient l'or précieux et il doit réchauffer la pierre, la travailler, elle est pleine d'impuretés et il travaille longtemps pour enlever les impuretés et finir avec l'or pur.
I must say I personally like these examples. They're coming from a very down to earth analogies, you know, physical work, something not, you know, up out in the space, up in the sky, but something I think everybody can relate to, even though nowadays people are more occupied with digital devices, etc., you know, in this very different realm.
Donc ce sont des images qui sont très terre à terre, elles sont faciles à comprendre, bien que ces jours-ci il y a moins d'artisans et les gens sont plutôt occupés sur des gadgets digitaux.
And in the digital world, as we all know, we want things to happen instantly, hein? We just press a button and poof, the laptop jumps on, or the smartphone sends a message and so forth. It goes just like that. This is our modern world. And one would be hard-pressed to find a suitable example in relation to the process of awakening.
Dans le monde moderne, dans le monde digital, on a vraiment l'habitude que tout se passe vraiment instantanément. Et ce serait difficile de trouver une analogie qui marcherait pour ce processus d'éveil.
Another actually story I like is out of the animal realm, where the example is given when a hen is sitting on an egg.
Une autre image que j'aime beaucoup est celle, et une qui vient du monde animal. Il y a l'image de la poule qui couve ses œufs.
So we are the hens, and the chick in the egg, the potential chick, is the awakening.
Nous sommes les poules et le petit poussin dans l'œuf, elle l'éveille.
So the hen can, you know, can use as much willpower as it wants to, the chick will not come out.
Donc la poule peut utiliser de sa volonté autant qu'elle veut, ne va pas faire éclore l'œuf.
But it does need endurance, constantly at it, constantly with it, being willing to go there every day, a few times every day, most of the day.
Mais elle a besoin d'endurance, elle doit vraiment couver ses œufs, s'en occuper.
And really practicing in a regular way.
Et le faire régulièrement tous les
jours. And then guess who decides to come out? The hen or the chick?
Et qui
guess what?
Et qui décide quand il va sortir, la poule ou le poussin?
Of course the chick decides when it's ready. And so it's a quite nice analogy also, you know, that we practice, we have a certain idea about our practice, the path of practice, we have a certain idea about the goal as well, of course, but in some strange way, I think I said it the other day, we have to let go of any images and ideas of the goal of our practice because it doesn't really help us in the here and now.
Et donc, c'est le poussin qui décide quand il va sortir. Et de même, avec notre pratique, on a des idées quant à l'éveil, quand ça va arriver. Mais il faut vraiment lâcher prise. Ça ne nous sert pas grand-chose.
Of course, it's also not advisable to become a compulsive sitter, you know. Some people are just... And they go on meditation retreats, you can see the compulsion in their facial expression. They sit and sit and sit and sit.
Donc c'est aussi important de ne pas devenir un méditant compulsif. Donc on voit dans certaines retraites des gens qui sont assis et c'est vraiment, ils sont un peu obsédés. Ils restent.
So that's why I'm actually very happy that we have these retreats where there's a mixture of everything. Eh? We walk and instead we do physical exercise, we're helping with the chores and so forth, so one doesn't get some kind of locked into a kind of compulsive sitter's position.
Et donc, j'aime bien ce genre de retraite où il y a différentes choses, on fait de l'assise, de la marche, il y a des moments de travail, on ne devient pas, disons, pris dans une compulsion d'assise.
Our teacher Ajahn Chah used to compare people like that, again with chicken. He used to say he has seen chickens sitting on the bar, you know, in their sheds for days on end, and not much wisdom was happening, actually. So.
Ajahn Chah comparait les méditants compulsifs un peu aussi à des poules qui restaient dans leur poulailler sur les barres et pendant des jours, mais ne développaient pas de sagesse.
Yes. So, you know, a lot more could be said in terms of the gradual path. And actually what we're doing here, what we're practicing, is the gradual path. How we try to incorporate the different aspects of the Dhamma into our life here, but also, of course, in our life beyond here, in the various environments where you will be going back to very soon.
Et donc, ce que l'on pratique ici, c'est bien évidemment, c'est le chemin graduel, et on utilise. On aborde toutes les différents aspects du Dhamma. On le fait ici, mais aussi on a en vue d'utiliser ces aspects dans nos vies courantes. Donc, quand on part d'ici.
What has always puzzled me up to a point, reading some of the stories of the ancient days or the time of the Buddha is, there were these accounts of sudden awakenings. And there was no report about a gradual build-up, you know.
Mais bon, ce qui me perplexe un peu, c'est que dans les suttas, il y a pas mal de d'histoires où il y a des éveils, l'éveil est soudain. On ne raconte pas à propos d'un éveil plus graduel.
It's a very famous story, it's a long story, a very nice story of the nun Patachara who awakened on the spot after she had met the Buddha. She went almost bananas because she lost all her relatives, 2 children, within the course of one day.
Il y a une très belle histoire qui concerne la nun Patachara qui atteint l'éveil en rencontrant le Bouddha. Tout d'un coup, elle était devenue presque folle parce qu'elle avait perdu toute sa famille et ses enfants.
And the Buddha brought her back to her senses, and more than to her senses, brought her back to the first stage of awakening.
Et le Bouddha elle est revenue à ses sens quand elle a rencontré le Bouddha, et même plus, elle a atteint les first stages.
Yes, stream entry.
Le premier stage de l'éveil.
Mm. And then there's also another very well-known account of the Venerable Ananda, who was, as you might have heard, he was the Upatak, the attendant for many, many years, 25 years, I think, at least, of the Buddha. And when, after the demise of the Buddha, he should have really come to the first Buddhist council, which was held shortly after the demise of the Buddha in Rajgir, in India.
Et puis il y a aussi l'histoire du vénérable Ananda, qui était très proche du Bouddha et était son intendant pendant. Il a été pendant. Des décennies, plus de 25 ans. Et après la mort du Bouddha, il aurait dû aller au Council, le grand rassemblement des disciples qui a eu lieu après la mort du Bouddha.
And the condition was that 500 monks were allowed to attend. It was in a cave up above Rajgir. But the condition was all of them had to be fully enlightened, fully awakened.
Donc,
which I guess one could say these things in those days in India.
et ce rassemblement prenait lieu dans les caves près de Rajgir, et 500 moines allaient y participer, mais il fallait être éveillé pour y participer.
And so the Venerable Ananda he was not quite there yet.
Et le vénérable Ananda, il n'était pas encore pleinement éveillé.
So they said to him, you should really try hard so that you can qualify to become a member of the meeting.
Alors on lui a dit, tu devrais vraiment essayer de faire un effort pour pouvoir participer à ce rassemblement.
So he did. He put a lot of effort in, probably used a lot of willpower, strained himself, tired himself out, and then went to his room in the middle of the night, was completely whacked from his effort, and before his head hit the pillow, he was fully awakened. Isn't that a wonderful story? Watch out tonight.
Donc, le vénérable Ananda est un peu désespéré. Il a fait énormément d'efforts durant toute la nuit avant le rassemblement pour essayer d'atteindre l'éveil.
He was blowing out the candle. It's like blowing out the candle before his head hit the pillow. He was awake.
Il n'y arrivait pas. Et finalement, il a décidé d'abandonner. Et juste avant que sa tête ne touche l'oreiller, juste après qu'il ait soufflé la bougie, il a atteint l'éveil.
So, with him and with the Vemra Ananda, one would, of course, assume that he had made some preparations, which, of course, he has. He was not only the attendant monk, he wasn't considered to be very highly accomplished as some of the other chief disciples of the Buddha, but he was very well known for his quality of metta that was very strong in him.
Et donc, le vénérable Ananda, on peut supposer qu'il avait quand même pratiqué, qu'il s'était préparé, et c'est bien sûr que c'est vrai. Il n'était pas reconnu tellement comme quelqu'un de très, très accompli, mais il était réputé surtout pour sa metta.
So he certainly had made some preparation. I would say it didn't come out of the blue. It wasn't that he was completely unprepared, had never done any meditation before, had never practiced any virtues or wholesome, wonderful qualities. He had done that.
Donc, ce n'est pas que le vénérable Ananda n'avait rien fait avant son éveil. Il avait pratiqué, il avait cultivé toutes les qualités, les bonnes qualités. Il avait fait beaucoup de préparation.
And actually, Patachara, the woman I was talking about, she wasn't a nun yet when she entered the first level, had this experience of the first level of awakening by the Buddha bringing her to her senses, but then she became a nun, and through her practice and efforts as a nun, then she became a fully awakened nun later on in her life.
Et aussi pour Patachara, elle n'est pas devenue pleinement éveillée quand elle était laïque, qu'elle a rencontré le Bouddha. Elle est devenue nonne par après, et par ses efforts, elle a atteint l'éveil plus tard.
But I have another little story I want to tell you also, but it contains really a wonderful teaching. It's one of my favorite teaching stories in relation to the topic of sudden awakening.
Et donc je voudrais aussi vous raconter une autre histoire qui est une de mes favorites par rapport au sujet de l'éveil soudain.
And it concerns a special ascetic, you could call him, who lived at the time of the Buddha in northern India, but on the other side, not where the Buddha lived. The Buddha lived in Savatthi at the time, which is close to the Nepalese border. He lived at the coast, maybe a little bit south of Calcutta. And he was a very ardent practitioner and quite full of himself, actually.
Et donc cette histoire concerne un ascète. Qui vivait non pas tellement près du Bouddha, mais de l'autre côté de l'Inde. Le Bouddha vivait à Savatthi à l'époque, et puis cet ascète était plutôt du côté de Calcutta. Et c'était un homme plutôt orgueilleux.
His name was actually Bahia. He was called the Bahia of the bark cloth. So probably doing some ascetic practice in terms of the garments he was wearing.
son nom c'était Bahia, ce qui veut dire ceinture d'écorce. Donc c'était probablement le vêtement qu'il portait.
Which wouldn't be unusual in India, if you know India. People wear all sorts of interesting outfits, even in those days.
C'est quelque chose qu'on trouvait, qu'on trouve en Inde, les gens portent ce genre de vêtements.
Anyway, he was very venerated and worshipped and honored and so forth. And so he thought, I wonder if there in this world, if there are any arahants, fully enlightened ones, and I wonder actually if I am one of them.
Et bon, cet ascète était très vénéré, très, très reconnu, très bien connu. Et il se posait la question, je me demande s'il existe dans ce monde des êtres pleinement éveillés. Et je me demande si je suis moi-même un de ces êtres.
And then what very often happens, there was an interference from heaven. A devata came down from heaven and plunked himself right in front of Bahia.
Comme il arrive souvent dans ces histoires, un être céleste est descendu du ciel et s'est planté juste devant Bahia.
It was actually an ex-old relative of Bahia.
un ancien membre de sa famille qui...
And... He says, "Well, Bahia, I'm sorry to say, but you're not an arahant yet."
Et cet être céleste lui a dit, "Je suis désolé, Bahia, mais tu n'es pas encore un arahant."
You don't have the practice leading to an arahantship.
Tu n'as pas la pratique qui y mène.
And you're not even on the path of it.
Tu n'es même pas sur le bon chemin.
So, of course, you can imagine Bahia's jaw dropped when he heard this unsettling message. And then he asked the devata, "Well, who then in this world is someone, you know, a fully awakened one, an arahant, whom I could possibly consult?"
On peut imaginer que Bahia, il était plutôt consterné à entendre cela. Et donc, il a demandé, mais qui donc est pleinement éveillé dans ce monde. À qui pourrais-je parler?
And of course, this devata, this heavenly being, knew about the Buddha. Said, "Yes, there is someone in the northern country in Savatthi. There is the Blessed One, the fully self-awakened Arahant, the Buddha. He truly is a reliable person, and he can teach you."
Donc le deva lui a répondu. Il y a dans ce monde, il y a quelqu'un qui vit à Savatthi, dans le nord de l'Inde, qui est le bienheureux, le pleinement éveillé, l'arahant, et tu pourrais aller lui parler.
And then in the story it says that Bahia, within, you know, only a few hours, he made his way from the coast up to Savatthi. He obviously had some psychic powers going for him.
Et donc l'histoire raconte que
one night it took him one night to get there. This is 1200 kilometers.
Que l'histoire raconte que Bahia lui a pris seulement une nuit pour voyager 1250 kilomètres de Calcutta vers Savatthi pour aller voir le Bouddha.
Which on a side note is a proof that psychic powers don't really are not the real thing, so don't worry about it.
Donc, il devait avoir des pouvoirs psychiques, ouais.
Psychique.
Et ce qui prouve que, en fait, ces genres de pouvoirs ne sont pas vraiment la vraie chose.
So Bahia zoomed over to Savatthi, right to the monastery where the Buddha was spending the rains retreat, Jetavana Grove.
Et donc Bahia est allé rencontrer le Bouddha au monastère où il résidait, le monastère Jetavana.
And the Buddha wasn't there, but there were some monks doing walking meditation in the monastery. So Bahia politely approached the monks and asked them, "I want to speak to the Blessed One, to the fully awakened Buddha, please give me an audience with him.
Donc, il se faisait que le Bouddha n'était pas là, mais il y avait des moines qui pratiquaient la méditation en marchant. Bahia leur a parlé, leur a demandé comment ils pourraient avoir une audience avec le Bouddha, le bienheureux.
And then the monk said, well, the Buddha has gone on out on arms round, you have to wait till he's back from his arms round.
Et on lui a dit, mais le Bouddha est parti faire sa tournée d'aumône, et il faudra attendre qu'il revienne.
But then Bahia, he said, well, I can't wait for that, so he went straight into the city of Sarvati in search for the Buddha.
Et Bahia a décidé qu'il ne pouvait pas attendre, donc il est allé directement à Sarvati pour retrouver le Bouddha.
And sure enough, he saw a line of monks walking through the streets, and at the front of this line of monks, he saw a very impressive figure, and he thought, this must be the Buddha, so I'll check him out.
Et assurément, quand il est entré dans la ville, il a vu les moines, une file de moines, et à la tête de la file, un être qui semblait très impressionnant. Et il se dit, ça doit être le Bouddha, je vais aller lui parler.
So it didn't take a great detour, he went straight to the Buddha, greeted him politely, respectfully, and said, please, Lord, teach me the Dhamma here and now.
Et donc il est allé directement et l'a salué respectueusement et lui a demandé tout de suite, s'il vous plaît, apprenez-moi le Dhamma ici et maintenant.
And the Buddha said, well, Bahia, this is not the right time, we are on arms round, this is not the right time to teach Dhamma.
Et le Bouddha lui a répondu, écoute Bahia, ce n'est pas le bon moment, nous faisons la tournée d'aumône, ce n'est pas le moment d'enseigner le Dhamma.
But then Bahia expressed a sense of urgency, he said, well, but this is very important, we don't know what is going to happen either to me or to you, so please teach me the Dhamma now. This is really very important for me.
Bahia lui a répondu, mais nous ne savons pas ce qui va arriver, ni à moi, ni à vous. Et c'est vraiment important que j'apprenne le Dhamma maintenant.
And the Buddha again negated. He said, Bahia, we are on arms round. When monks are on arms round, they are on arms round. So the Buddha said, no, this is not the time. And this repeated itself another one, so it went a third time. But then it said that when Buddhas can't refuse, when asked three times, they have to then agree and give a teaching.
Et donc, le Bouddha lui a encore une fois répondu, ce n'est pas le moment, Bahia. Mais il a insisté trois fois. On dit que quand on demande trois fois au Bouddha pour un enseignement, il est obligé d'enseigner le Dhamma.
So I want to really read this out to you because it's really a very beautiful teaching which one doesn't want to miss on details.
Et donc je vais vous le lire parce que c'est vraiment un enseignement très beau.
But maybe just before that comes, I'm just to quote Bahia who said to the Blessed One, but it is hard to know for sure what dangers there may be for the Blessed One's life, or what dangers there may be for mine. So teach me the Dhamma, O Blessed One, teach me the Dhamma, etc. So really, he's really driving his point home.
Donc Bahia, quand il a insisté, en fait, il a dit, il n'y a pas moyen de savoir quel danger pourrait être, quel danger il y aurait à la vie du bienheureux, ni à ma vie, à moi. Donc, enseignez-moi le Dhamma.
So then the Buddha said, then Bahia, you should train yourself thus. In reference to the seen, there will be only the seen.
Donc, le Bouddha lui a donné cet enseignement. Bahia, tu devrais t'entraîner comme ceci. Par rapport à ce qui est vu, il n'y a que le vu.
In reference to the heard, only the heard.
par référence à ce qui est entendu, il n'y a que ce qui est entendu.
In reference to the sensed, only the sensed.
Par référence à ce qui est sensé, ressenti, il n'y a que le ressenti.
In reference to the cognized, only the cognized.
Référence à ce qui est
What's the French word?
Reconnu, okay. Il n'y a que ce qui est reconnu.
That is how you should train yourself.
C'est comme cela qu'il faut s'entraîner.
Then for you, there will be only the seen in reference to the seen.
Quand pour toi, il n'y aura que le vu par référence à ce qui est vu.
Only the heard in reference to the heard.
Seulement ce qui est entendu par référence à ce qui est entendu.
Only the sensed in reference to the sensed.
Seulement le ressenti par rapport à ce qui est ressenti.
And only the cognized in reference to the cognized.
Et seulement le reconnu par rapport à ce qui est reconnu.
Then, Bahia, there is no you in connection with that.
Alors, Bahia, il n'y a pas de toi qui est en connexion avec ça.
So that's a pointer to no self and not taking identity with these impressions.
Et donc cela fait référence au non-soi, à ne pas s'identifier à ces impressions.
And then it continues, when there is no you in connection with that,
quand il n'y a pas de toi par rapport à ça,
there is no you there.
Il n'y a pas de toi qui est présent.
When there's no you there, you're neither here, nor yonder, nor between the two.
Quand il n'y a pas de toi qui est présent,
when there is no you there, you are neither here, nor yonder, nor between the two.
Quand il n'y a pas de toi qui est présent, I just keep getting the next bit.
There's you're neither here nor yonder. Yonder is a strange word.
You are. Quand il n'y a pas de toi qui est présent, tu n'es ni là, ni plus loin, ni au-delà.
Okay.
Voilà.
So, it cannot be found. Self cannot be found. And this equals, of course, the realization of anatta. So, admittedly, Bahia was giving the pinnacle of the teaching. It was really a very essential, powerful pointer to, yes, I can't find a better word than the pinnacle of the teaching. Stop identifying with anything in the realm of conditioned reality, and there you are, realization.
Cet enseignement est sur l'anatta, vraiment représente le pic, le sommet, le niveau le plus haut, mais est sur vraiment l'identification à tout ce qui est conditionné. Quand il n'est plus là, il y a l'éveil.
But then, just the story continues a little bit, just to condense it. Then Bahia, after Bahia had heard this teaching, he was freed, as it says in the text here, from the effluence or from the outflows, which refers to the so-called asavas in Theravada terminology, which is the outflow to sensuality, the outflow towards becoming, and the outflow in relation to ignorance. So the heart was free, eh? Bahia was liberated there and then after hearing this very concise, powerful teaching by the Buddha, spontaneously awakened.
Et donc, après avoir entendu cet enseignement, Bahia était libre de ce qu'on appelle les asavas en pali, les effluents, donc qu'on qualifie, c'est les effluents du devenir, de la sensualité.
So that is in the ignorance,
Et de l'ignorance.
Yeah.
Donc il est devenu éveillé sur le coup.
Mm-hmm. And then Bahia went his way. And the Buddha went his way. He continued his arms around. And then we get the message why Bahia was under such a pressure, why he had such an urgency. Because a few moments later, he was killed by a stray cow. This is India. He was killed by a cow.
L'histoire finie, donc Bahia et le Bouddha se sont séparés. Et Bahia a quitté la ville, et puis on découvre pourquoi il était tellement pressé d'entendre l'enseignement, parce que à peine sorti de la ville, il a été tué par une vache.
A cow with a small calf. Maybe Bahia came between the cow and the calf, who knows? Anyway, Bahia was killed there and then the Buddha came back from his arms round with his group of monks and saw what had happened. And he said to his monks, so take Bahia, take him on a litter and take him away and cremate him. And then after you cremated him, erect him a memorial. Your companion in the holy life has died.
Et donc le Bouddha, quand il est revenu de son tour d'aumône, il a vu que ce qui s'était passé, et il a dit au moine de prendre le corps et de l'incinérer, de le brûler, et d'ériger un monument à Bahia, en leur disant que leur compagnon dans la vie spirituelle, était mort.
So the monks did as they were told. They cremated Bahia. The Buddha went back to the monastery. And later on, after the monks had finished their business, they came back also to the monastery and sat down near the Buddha. And they asked him, could you tell us what is the destiny of Bahia? Where is he now after his death? Where has he gone to?
Et donc les moines ont fait comme le Bouddha leur avait demandé. Ils ont brûlé le corps et puis ils sont retournés au monastère. Et ils ont retrouvé le Bouddha, ils se sont assis devant lui. Et lui ont posé la question, s'il vous plaît, Seigneur, pouvez-vous nous dire la destinée de Bahia? Dans quelle demeure il va se retrouver?
What will be his future state? Yes.
Quel serait son état futur?
And then the Buddha actually spoke a very nice, it's like a poem which I don't want to keep secret from you. So, but first the Buddha answered the monks and said, monks, Bahia of the bark cloth was wise, he was a wise man. He practiced the Dhamma in accordance with the Dhamma.
Donc, il y a un poème que je vais vous lire plus tard, mais avant le poème, le Bouddha répond « Moine, Bahia, il était sage, il a pratiqué le Dhamma en accord avec le Dhamma. »
And he didn't pester me with issues related to the Dhamma.
Et il ne m'a pas embêté avec des questions par rapport au Dhamma.
Bahia of the bark cloth monks is totally unbound, so this is this term unbound for liberation, totally free.
Donc, Bahia, il est totalement libre.
And then on the significance of that, the Blessed One, the Buddha exclaimed, now comes this little poem.
Et puis après, en se rendant compte de la signification de cela, le Bouddha a fait cette proclamation, ce petit poème.
Where water, earth, fire, and wind have no footing. Where water, earth, fire, and wind have
no footing.
Why don't you read it and give me the text? That would be easy. Oh, yes. Okay. You read both then, English and French. Yeah? Okay.
Okay. Donc, le poème dit Where water, earth, fire and wind have no footing, there the stars don't shine, the sun isn't visible, there the moon doesn't appear, there darkness is not found. And when a sage, a Brahman through sagacity, has realized this for himself, then from form and formless, from bliss and pain, he is freed. Alors, je vais essayer de traduire ça. Là où l'eau, la terre, le feu et le vent n'ont pas de prise, là non plus les étoiles ne scintillent pas, le soleil n'est pas visible, là la lune n'apparaît pas, là il n'y a pas de... tout à fait. Il n'y a pas de noir. Et quand un sage, un brahman, par sa sagesse, a reconnu cela par lui-même, alors il est libre de la forme et de ce qui n'a pas de forme, de la douleur et du merveilleux.
Merci. So, yeah, what does this do to you when you hear such words and such exceptional occurrence as a spontaneous awakening? Of course, one has to consider the situation, the participants, that Bahia was in front of a fully awakened Buddha.
Donc, je me demande quel est l'effet cela vous fait quand vous entendez ça. Bien sûr, il faut considérer que Bahia se trouvait devant un être pleinement éveillé.
And of course, as it says in the beginning, he did have some spiritual practice going. He did not come there as a complete newcomer.
Et bien sûr aussi, Bahia avait pratiqué, il s'était entraîné.
Although, as the Devadas said, he was not even on the way to awakening.
Même si le Deva lui a dit qu'il n'était même pas sur le bon chemin.
But something must have been realized or understood in him, even though the Devata felt he was not on the way to awakening, because nothing happens out of the blue.
Mais bon, Bahia avait bien dû comprendre quelque chose, malgré les mots du Devata, parce que rien n'arrive par hasard.
There are causes and conditions in our world, in our lives, and so are the causes and conditions for people like that. When we read these ancient stories, we might not know about the causes and conditions which they lived under.
Il y a toujours des causes et des conditions, et peut-être que nous ne les connaissons pas. Nous ne connaissons pas les causes et les conditions pour ces personnages.
Certainly, when it comes to awakening, there is no coincidence. Hein? You can't be awakened by coincidence.
Certainement, quand on parle de l'éveil, il n'y a pas de coïncidence. On ne peut pas devenir ou être éveillé par coïncidence.
But there can be occurrences, there can be events in one's life, and there can be encounters with certain people, or we can have unexpected experiences in our meditation which propel us forward.
Mais il peut y avoir des événements dans nos vies, des rencontres, ou bien des expériences dans notre pratique de méditation qui nous font avancer.
Or suddenly we get a really an confirmation inwardly in ourselves. Oh, I finally have understood this. I finally have understood how the imagined self, the ego self, constructs and reconstructs itself. again and again and again, and how attached, how incredibly attached I am to that process.
Donc, mais quelquefois on a, disons, une confirmation en nous-mêmes qu'on a compris quelque chose, qu'on a lâché, qu'on a compris ce soi imaginé, le soi, l'ego, qui se crée, se recrée continuellement.
And of course, admittedly, how difficult it is to really scrutinize this process, to really see through it. How this, what the Buddha called the me and mind making process, how this operates, how it constellates the ego self, the constricted self, again and again.
Donc, mais combien on y est attaché et combien c'est difficile de voir à travers, si on veut, ce processus qui est appelé. La fabrication de moi et du à moi, de ce qui est à moi.
So and these two different approaches, I just brought them out today in terms of stories and so forth, and examples and images, just to bring our understanding maybe on a different level when we hear stories and images. But something different resonates rather than just through conceptual ideas and so forth.
Et je vous ai parlé de ces deux différentes approches à l'éveil par une histoire, parce que quand on entend ce genre d'histoire, c'est peut-être l'effet différent que quand c'est seulement des concepts.
But the idea is, of course, that nothing will spare us the process of cultivation, of development. Hmm? That is actually the term we tend to translate with meditation. The Pali term bhavana, this is what the Western languages have translated with meditation, actually means cultivation, development.
L'idée à retenir, c'est qu'on ne peut pas éviter ce processus de développement, de cultivation. Donc, ce qu'on appelle la méditation en Occident, c'est en fait ça se réfère en pali au mot bhavana, qui veut dire cultiver, développer.
So when we are practicing bhavana, when we are in this developmental process.
Donc, lorsqu'on pratique bhavana, qu'on est dans ce processus de développement.
And we consider the whole package. We don't just pick and choose according to our preferences.
Et donc, on considère le tout. On ne choisit pas selon nos préférences.
And yesterday, I mentioned the package. It's commonly called ethics, consisting of ethics, of meditation, and of wisdom.
Et hier, je vous ai dit que le tout comprend les trois aspects, sila, l'éthique, samadhi, la méditation, et bhavana, la sagesse.
A meditation can comprise different aspects, of course. There is the samatha practice, the meditation leading to stillness and calm. Is the mindfulness practice.
Et donc, la méditation peut comprendre différents aspects. Donc, il y a l'aspect de samatha, le développement de la tranquillité.
And the cultivation of wholesome mind states, brahmavihara cultivation.
La cultivation des états d'esprit beaux, merveilleux, sains.
So we don't isolate parts from it out of the teaching body according to our preferences. Nowadays, mindfulness, of course, has been taken out of the context of the Buddhist presentation, which I have no problem with.
Donc, on ne prend pas ces éléments en isolation selon nos préférences. Donc, de ces jours, la méditation pleine conscience a été quelque chose qui est très très pratiqué.
And of course, mindfulness is in certain areas of secular life is very applicable. It's supposed to reduce stress.
Donc, la méditation de pleine conscience s'applique beaucoup dans certains aspects de la vie laïque, la vie séculaire.
It helps people to deal with pain, people lying in hospital with severe illnesses, to come to terms with the pain they experience.
Elle aide à réduire le stress, elle aide à gérer les douleurs chroniques, les douleurs aiguës.
But I hope it has become clear that the way we were using mindfulness here is to go beyond all stress, all forms of stress, and it is the tool to for our awakening.
Mais ça devrait être clair que la façon dont nous utilisons la pleine conscience ici, c'est vraiment pour aller au-delà de toute douleur et l'utiliser pour notre éveil.
So it's not just to reduce suffering, but to overcome suffering, to get liberated from suffering.
Donc ce n'est pas simplement de réduire la souffrance, mais de vraiment la dépasser, d'aller complètement au-delà de la souffrance.
So that's the task we've set ourselves for. I hope you've set this task for yourself as well. Or maybe you haven't yet. I'm not trying to not make assumptions here.
Donc c'est le travail que nous avons décidé de faire. Peut-être, bon, je ne veux pas penser que vous l'avez décidé si vous ne l'avez pas.
But as I said yesterday evening when I spoke about the rudimentary understanding of the first path factor, the right understanding, if we then take this a little bit deeper rather than just understanding it conceptually.
Mais comme j'en ai parlé hier, quand on prend le premier aspect de la voie, l'aspect de la compréhension juste, un peu plus qu'on va d'une compréhension rudimentaire et qu'on va un peu plus profondément.
And we really know through our own experience or insight that we really have an existential problem here, existential theme, which is the theme of dukkha.
Et qu'on comprend qu'on a vraiment cette compréhension profonde qu'il y a un problème existentiel, qu'on est présenté avec un problème existentiel qui est le problème de la dukkha.
And nothing in the world, no worldly thing will relieve us from it. Temporary relief maybe for brief moments, but not final relief.
Et que il n'y a rien dans le monde qui va pouvoir nous soulager de ce problème. Peut-être temporairement, mais seulement temporairement.
And if that really sinks in, if we really take this to heart, then we want to be free, eh? We want to free ourselves from the hindrances and obstacles and limitations and the impurities which we can still see, honestly see and discover when we have a close look.
Et donc si on prend vraiment tout ça à cœur, on a l'envie de vraiment être libre de toutes les impuretés, les empêchements.
So I encourage you all to look into that a bit more in the remaining 2 days. Explore that. Is there dukkha? Do you experience dukkha in some form or other?
Et donc je vous
I don't want to suggest something to you, you know, which you don't experience.
Je vous encourage vraiment à explorer cet aspect durant les deux derniers jours. Est-ce qu'il y a dukkha? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez?
And if there is, if you see it, whose fault is it? Who's responsible for it? Where does it come from? Does it come from outside, someone else, heaven sent, God sent, some entity, other people, our spouses, husbands, wives? Are they responsible for our dukkha? or my fellow monks.
Donc, si vous trouvez que qu'il y a de la dukkha, vous demandez d'où vient-elle, qui est responsable? Est-ce que c'est votre famille, votre mari, votre femme? Donc la Dajan, c'est les moines avec qui il vit, les personnes autour de nous.
So if we really, take that full responsibility and stop pointing the finger out there to anybody, anything, you name it, then that's a big step towards liberation, because then we are completely committed to be concerned about the heart mind, as the title of this retreat says, healing the heart mind. It's a kind of bit of a creative title, but what I meant by that is, of course, healing more in the final sense, not just some panacea to have a little, you know, to have a little bit of a plaster over our wounds. And no, we want to really heal our heart and minds completely.
Donc, si on est prêt à prendre responsabilité, alors on commence à être vraiment engagé. C'est le mot engagé. On devient vraiment engagé à reconnaître le cœur, l'esprit, et pour en revenir au thème, disons, le titre de la retraite, qui est la guérison du cœur et de l'esprit, nous sommes alors engagés dans cette voie de guérir au plus profond le cœur et l'esprit, vraiment de le guérir complètement, pas simplement un petit peu.
Ok, cela suffit. So, stop for tonight. So we are walking until, 9:15.